France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Quelques heures seulement après l'identification officielle du corps hier de Steve Maya Canisso qui avait disparu à Nantes le soir de la fête de la musique, les premiers éléments de l'enquête de l'IGPN ont été publiés. Ils concernent le déroulement de la nuit du 21 au 22 juin dernier sur les bords de Loire à Nantes, quai Wilson, à l'endroit et au moment de la disparition du jeune homme. Et c'est le Premier ministre en personne, Édouard Philippe, qui au creux de l'été s'est donné la peine de présenter ce rapport devant les caméras de télévision, signe peut-être que l'heure est grave, en tout cas que le sommet de l'État s'inquiète des répercussions que peut avoir cette affaire sur l'opinion publique. Le rapport de l'IGPN explique en substance que circuler, il n'y a rien à voir. Je cite, il ne peut être établi de lien direct entre l'intervention des forces de police et la disparition de monsieur Steve Maya Canisso. Mais Édouard Philippe hier, et Christophe Castaner ce matin d'ailleurs, dans les colonnes de Ouest France, semble ne pas vraiment se contenter de ses conclusions. Une enquête de l'inspection générale de l'administration a été demandée et explique le ministre de l'Intérieur ce matin dans Ouest France, s'il y a faute, il y aura sanction. Façon de dire peut-être que le rapport de l'IGPN présenté hier n'est pas définitif. Tout ça est un peu confus et pose la question une nouvelle fois du lien de confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens, lien qui semble se distendre et pas seulement depuis les manifestations violentes des Gilets jaunes. Pour en parler ce matin, nous recevons Arnaud Hout, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à Sorbonne Université, spécialiste de l'histoire de la police et des questions de sécurité, auteur de l'ouvrage « Les gendarmeries dans le monde, de la Révolution française à nos jours » paru aux presses de l'Université Paris-Sorbonne. À vos côtés, David Dufresne, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, écrivain et documentariste, vous êtes notamment l'auteur de « Maintien de l'ordre » réédité chez Fayard. Alors on ne va pas évidemment se substituer à l'enquête ce matin, ou aux enquêtes, ce n'est pas à nous de dire ce qui s'est passé dans la nuit du 21 au 22 juin à Nantes, mais sur ce rapport de l'IGPN qui est à la fois brandi et à la fois relativisé, Arnaud Hout, c'est pas vraiment ce qui incite à la confiance.
Tout à fait, je pense que là, un des enjeux, c'est qui mène l'enquête et dans quel cadre. Et effectivement, il se trouve qu'en France, on a un système où des corps d'inspection internes au ministère de l'Intérieur, à la police nationale, à l'administration de manière générale, mènent l'enquête dans des conditions qui sont peut-être tout à fait bonnes, on n'en sait rien, mais qui en tout cas prêtent à suspicion, ne serait-ce que parce que finalement ils sont jugés partis. Donc c'est un des problèmes que pose ce système effectivement des corps d'inspection de la police qui crée justement un doute, une suspicion sur finalement la validité de leurs investigations.
Ça c'est le problème de l'IGPN, un problème qui est soulevé, hein, notamment à la gauche de la gauche. C'est Éric Coquerel par exemple qui disait hier la police peut pas être à la fois juge et partie, on peut pas demander à la police d'enquêter sur la police, hein, c'est ce qu'il disait.
En tout cas c'est difficile de se contenter d'un son de cloche. Encore une fois, peut-être que le rapport de l'IGPN est fondé, on n'est pas en mesure ici d'en discuter précisément, mais
c'est le doute qui pose problème.
C'est ça. Le principe, il est là, c'est qu'à partir du moment où il y a une crise de confiance entre justement police et société, il y a la nécessité d'avoir des gestes qui sont pas seulement symboliques, mais qui seraient des gestes justement visant à garantir un rapprochement et en tout cas une plus grande transparence.
Est-ce que le timing nous interroge aussi, Arnaud Hout, le rapport était prêt il y a quasiment 10 jours, il a été publié hier au moment de l'annonce de l'identification formelle du corps. Ça veut dire que alors on le sait, mais les politiques réagissent avec l'émotion, mais là ça donne aussi encore peut-être quelque chose d'un peu problématique.
C'est ça, là je pense qu'il y a un ensemble dans toute cette tragique affaire, c'est que depuis le début on a le sentiment que d'abord la disparition n'a pas forcément été tout à fait prise au sérieux, en tout cas n'a pas donné lieu à une communication adaptée à la mesure de l'événement, et après finalement on a le sentiment que ici le politique pédale un petit peu en retard pour essayer de répondre à une émotion qui était quand même palpable hier à Nantes, et pas seulement à Nantes, et qui est très significative justement là encore de cette crise de confiance.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crise de confiance, Arnaud Hout, entre les différentes autorités finalement? Parce que quand on commande un rapport à l'IGA, l'inspection générale de l'administration, alors même que l'IGPN avait rendu le sien, on nous invite cordialement à regarder du côté de la police et de la préfecture.
C'est ça, parce qu'effectivement, il y a une différence quand même de compétences entre l'IGA et l'IGPN. L'IGPN, comme son nom l'indique, s'occupe de la police nationale, l'IGA s'occupe de l'administration, ce qui intègre donc forcément la préfecture. Et là, c'est important, parce qu'une des questions qui va être posée de manière assez précise, c'est celle justement du donneur d'ordre, de la responsabilité à la fois de la sécurité, de la fête de la musique, mais aussi et surtout ici, de la gestion finalement de la police ce soir-là. Donc effectivement, en fonction de l'institution qu'on va saisir de l'enquête, on va indiquer d'une certaine manière qui sont les responsables supposés.
Et ça d'autant plus que parmi les questions qui se posent, et ça c'est Édouard Philippe hier qui, révélant les premières conclusions du rapport de l'IGPN, pose cette question, les autorités de police présentes sur les lieux au moment des événements et chargées de leur gestion, disposaient-elles d'une conduite à tenir suffisamment claire ? Là, il y a quelque chose aussi qui va être à éclaircir.
En tout cas, c'est un thème qui revient beaucoup cette année. J'ai trouvé ça assez frappant durant toute l'année avec d'abord la crise des Gilets jaunes, mais encore justement avec cette affaire. C'est tout ce thème de la doctrine. La doctrine du maintien de l'ordre. Ce qui n'est pas une notion finalement si fréquente que ça, parce que dans le discours interne justement de la police ou de la gendarmerie, on ne parle pas forcément d'une doctrine. Il y a des, bien entendu, des instructions, des principes, etc. Mais c'est pas un corpus qui serait enseigné de manière extrêmement précise, figé. C'est plus évolutif que ça. Mais c'est vrai que cette année, on a beaucoup mythifié cette doctrine. D'ailleurs, on en a changé en cours d'année en suggérant finalement que il suffisait de changer de doctrine pour régler tous les problèmes.
On l'a vu tout au long des manifestations des Gilets jaunes entre le mois de novembre, décembre et puis ensuite janvier. Avant de revenir peut-être sur la doctrine et puis de parler aussi de la confiance, autre élément du rapport sur la justification de l'intervention qui n'était pas, d'après l'IGPN, disproportionnée. Sur cette affaire, la question précisément, c'est l'intervention était-elle nécessaire, souhaitable, utile ? Question d'autant plus importante qu'elle était manifestement dangereuse alors qu'il n'y avait pas de l'autre côté, du côté des jeunes qui fêtaient la musique. Il n'y avait pas de danger, David Dufresne.
Oui, alors effectivement, la base du maintien de l'ordre en France, c'est le pilier, c'est l'usage strictement nécessaire de la force et sa proportionnalité. Ce rapport de l'IGPN, il existe en fait plusieurs types de rapports. Ça, c'est le rapport administratif qu'on peut qualifier sans être diffamant, de mascarade et d'être un rapport qui est chargé de couvrir les troupes. Il y a d'autres types de rapports de l'IGPN qui sont beaucoup plus costauds, mais celui-ci, c'est celui qu'on sort tout de suite, que Monsieur Castaner, depuis des mois, depuis le mouvement des Gilets jaunes, sort à chaque fois qu'il y a un questionnement sérieux sur telle ou telle pratique policière. Il dit « j'ai saisi l'IGPN, on verra ce que l'IGPN dit ». Effectivement, hier, sur le perron de Matignon, on voit un Édouard Philippe pas tout à fait à l'aise, qui explique qu'il peut pas s'en contenter. Ça fait des mois qu'on explique que les associations de victimes, que les avocats, que les observateurs expliquent qu'on ne peut pas se contenter, effectivement, d'un travail fait par juge et partie, par l'IGPN, à l'inverse, par exemple, d'un pays comme l'Angleterre, où la police des polices est totalement indépendante du corps policier. Et quand je dis ça, je dois aussi ajouter, en toute honnêteté, que les policiers avec qui je discute, eux, craignent énormément l'IGPN. C'est-à-dire que l'IGPN, c'est pas, ça n'est pas qu'une machine à laver plus blanc, la police.
L'IGPN n'est pas une mascarade, c'est ce rapport, c'est ce que vous dites, qui pose problème, en tout cas.
Là, ce qui se passe quand même depuis le mois de janvier, où on a
depuis les Gilets jaunes,
depuis les Gilets jaunes, c'est-à-dire depuis la fonction, il se trouve que c'est depuis la nouvelle chef, Madame Brigitte Julien, qui est au devant de la scène, acculée devant les bavures, les suspicions de bavures à répétition. Elle vient au Sénat, elle vient devant les caméras pour à chaque fois expliquer que les ordres ont été donnés, que tout va bien, Madame la Marquise, circulez, il n'y a rien à voir. Depuis le mois de janvier, c'est ça. Que ce soit Mantes-la-Jolie, avec ses 151 enfants agenouillés pendant une heure, deux heures, trois heures.
Les mains sur la tête.
Les mains sur la tête, avec un policier qui filme et qui dit « voilà une classe qui se tient sage, circulez, il n'y a rien à voir. » Steve, circulez, il n'y a rien à voir. Zineb Redouane, circulez, il n'y a rien à voir. Geneviève Leguet, circulez, il n'y a rien à voir. Sauf que là, je viens de vous donner quatre exemples où on sait qu'il y a à voir. Où on sait, par exemple, pour Geneviève Leguet, prenons un exemple tout simple, que le procureur lui-même a reconnu, le procureur de Nice lui-même a reconnu avoir, à l'IGPN notamment, donné une version qui faisait en sorte qu'elle n'embarrassait pas Emmanuel Macron. Où est la séparation des pouvoirs ? Donc c'est de ça dont on parle. Et c'est de ça dont il s'agit quand Édouard Philippe descend les marches de Matignon, c'est qu'il transforme ça en affaire d'État. Il nous explique, ça nous concerne tous, lui, Premier ministre, et nous tous, citoyens. C'est-à-dire que, et c'est là où on va avoir le temps d'en parler, où la question de la doctrine est si essentielle. Ça nous concerne tous. Le Premier ministre a dit à son ministre de l'Intérieur, tu viens à côté de moi, tu ne parles pas, c'est moi qui prends la parole, et c'est moi qui dis, on ne peut pas se contenter de ce rapport administratif de l'IGPN.
Tout ça alors qu'il est tout à fait possible, alors encore une fois on prend beaucoup de pincettes, mais qu'il n'y ait effectivement pas de lien entre l'intervention des forces de l'ordre et la mort de Steve Maia Caniço.
Oui, tout est possible.
C'est ça le problème,
depuis
en fait.
Richard Virenc, tout est possible, à l'insu de son plein gré, tout est possible. Écoutez, non, j'ai lu le rapport qui n'est pas le rapport d'ailleurs, hein, petit détail, ce qui a été donné à la presse, ce n'est pas le rapport, contrairement à ce qui avait été annoncé par Édouard Philippe, c'est la note de synthèse de 10 pages. Le rapport, lui, fait 235 pages. Je crois que ça n'a été donné qu'à un ou deux journalistes. Ce qui circule sur les réseaux sociaux, ce qui a été mis en ligne, ce qui a été envoyé à la presse, c'est une note de synthèse. Or, dans cette note de synthèse, il y a une phrase magnifique qui explique que les CRS, ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre, sont arrivés après, alors c'est pas le terme, mais c'est après la bataille. Donc, les policiers qui sont mis en cause, parce qu'il y a des policiers qui sont mis en cause. Il y a une enquête qui est quand même a été ouverte hier matin pour homicide involontaire. Donc voilà. Alors ça, évidemment, les déclarations ministérielles et
ce n'est pas la police directement et pas
obligatoirement. Non, c'est contre X. Mais enfin, soyons très clairs. Sans intervention de la police, il n'y a pas de 14 personnes qui se jettent à l'eau.
Trois, visiblement, sont tombés avant l'intervention de la police.
Alors ça, c'est effectivement ce que dit la note de synthèse qui circule. Oui, alors trois, mais il faudrait voir pourquoi, dans quelle mesure. Ce qui est évident quand on regarde les vidéos qui ont circulé dès le 22-23 juin, c'est qu'il y a intervention de la police, qu'il y a des gens qui hurlent à la police, il va y avoir un drame,
il y a la loi derrière, etc.
Ouais. Donc moi je veux bien qu'on dise que tout ça n'a pas existé.
Non mais le rapport de l'IGPN ne remet pas ou la note de synthèse ne remet pas en question ça, hein. On a des chiffres, 33 grenades lacrymogènes lancées à la main, 12 balles de défense lancées, 10 grenades de des encerclements, tout ça c'est formulé effectivement dans ce rapport, David Dufresne.
Oui,
le problème, c'est le lien de causalité entre cette intervention et la mort d'un homme qui effectivement s'est trouvé dans la loi.
Alors là-dessus, je vous renvoie au rapport qui a été révélé par Mediapart de 2017, il y a deux ans, rapport de la police nantaise qui expliquait très bien comment il fallait agir à cet endroit-là, au même moment, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire ce que la police appelle un repli tactique. C'est d'ailleurs le même commissaire. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le même commissaire en 2017 a l'intelligence du repli tactique. On peut rentrer dans les détails, pourquoi je parle d'intelligence, pourquoi je parle de repli tactique, enfin tout le monde le comprend. Et deux ans plus tard, eh bien il procède au tir dont vous venez de parler. Et ça c'est la doctrine. Et c'est ce glissement qu'il faut absolument étudier, observer, critiquer, regarder de part et d'autre de la barricade.
Arnaud Wood, vous diriez qu'on est dans une logique d'escalade, qu'il y a un glissement dans la doctrine en France, parce que une intervention des forces de l'ordre, elle doit être pensée dans un certain équilibre, évidemment, entre les enjeux de sécurité publique et puis les espèces de liberté. Là, encore une fois, il n'y avait pas de danger manifeste.
Oui, Dufresne a rappelé la notion clé, hein, qui est celle de proportionnalité, justement. Et là, manifestement, il y a quand même un problème avec cette notion de proportionnalité. Alors, de manière générale, hein, quand on essaye de réfléchir en termes d'escalade, d'évolution, l'historien a tendance à être prudent et à retrouver des antécédents qui vont montrer que les choses sont toujours plus compliquées. Malgré tout, il est évident que la séquence très récente, peut-être la séquence depuis les Gilets jaunes, peut-être les années qui précèdent aussi, mais depuis quelques années en tout cas, je ne sais pas si le mot escalade, c'est celui qui restera, mais ça semble assez évident, effectivement. Il y a en tout cas une évolution des seuils de sensibilité à la violence policière. Et ça, c'est très très net, parce que je pense, comme le disait David Dufresne, que du côté des acteurs de la police, il y a un certain nombre de principes qui allait de soi finalement il y a quelques années, qui aujourd'hui sont peut-être davantage flous. L'idée justement que peut-être il faut tenir la position à tout prix, là où avant un policier ne trouvait pas forcément infamant de reculer, parce qu'effectivement c'est aussi une forme d'action de police que de reculer et de laisser la part du feu. Ça aujourd'hui c'est peut-être plus difficile à entendre, à faire passer. Et c'est en ce sens que oui, il y a sans doute une escalade.
Et ça s'explique à l'échelle de la police ou ça s'explique à une échelle plus politique
Alors, il y a quand même plusieurs éléments à prendre en compte. Avant même de rentrer sur la question strictement politique, il y a un contexte global qui est aussi celui de l'antiterrorisme. Je pense qu'on aurait tort de le perdre de vue ici parce que on a eu, autour de 2015 en particulier, une focalisation sur les missions de la police et précisément sur un éloge d'une police qui défendait les citoyens, etc. D'une certaine manière, ça a contribué à cristalliser sans doute un certain nombre de passions, de fascinations. Ça a pu peser également dans une gestion peut-être, je ne sais pas si le terme est très adéquat, mais décomplexée, on va dire ici, ensuite du maintien de l'ordre. Alors ça, c'est un premier élément. Et ensuite, effectivement, il y a l'enjeu politique. Et là, il ne faut pas sous-estimer ce qu'a représenté la crise des Gilets jaunes pour le gouvernement, hein, qui, du même coup, a pu justement lui-même donner des consignes qui étaient beaucoup plus dures, beaucoup plus fermes, parce que pour le gouvernement, c'était une crise majeure.
Mais il y a eu la loi travail aussi avant.
Bien sûr. Freine. Alors là, on parle du maintien de l'ordre de répression sociale, hein, dans le cadre de manifestations. Donc les gilets jaunes, donc la loi travail, d'une certaine manière nuit debout. Ensuite, vous avez eu aussi Notre-Dame-des-Landes, où on est toujours dans ce maintien de l'ordre là. Mais vous avez aussi un autre maintien de l'ordre qui depuis 30 ans fait des dégâts considérables. C'est dans les quartiers populaires, c'est dans les banlieues. Alors, ce maintien de l'ordre-là, il se voit peu, il se voit pas, il est dans l'indifférence, mais il existe. Et là, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que si on parle d'escalade, il faut remonter plus loin, et en fait, c'est toujours hasardeux de parler d'escalade ou de rupture. On est dans un continuum. Sauf que, aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Aujourd'hui, c'est le pont de Sully, c'est-à-dire des jeunes adolescents ou jeunes adultes qui font un sitting sur un pont de Paris et qui se font asperger de gaz lacrymogène tant et tant que le commissaire qui lui-même donne, ou le commandant qui lui-même asperge les manifestants, subit un petit trouble parce que il en a trop versé. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que la décomposition dont vous parlez, elle arrive là, elle touche là. Et moi, j'ai des policiers qui m'en parlent, notamment, on va dire, les professionnels du maintien de l'ordre, CRS, gendarmes mobiles, etc., qui sont effarés. J'emploie un terme qui m'a été donné, effaré par ce qui se passe, c'est-à-dire à qui on demande maintenant de faire du maintien de l'ordre ou du rétablissement de l'ordre, etc. Donc avec des policiers qui ne sont pas forcément formés, qui ne sont pas forcément équipés, qui sont rarement entraînés et qui agissent, alors là justement, dans une doctrine qui n'est pas vissé, quoi. Et donc c'est là où ce durcissement policier, de mon point de vue, il y a un lien, pour paraphraser l'IGPN, il y a évidemment un lien entre ce durcissement et les 24 personnes qui ont perdu un œil pendant les gilets jaunes, les 5 qui ont perdu une main, Zineb Redouane, Steve, il y a un lien.
Dans un temps un peu long, Arnaud, et je parle à l'historien, du coup, on avait tendance à penser qu'on était dans un contexte de pacification de ces relations entre les forces de l'ordre de manière globale, hein, et les citoyens, notamment en France. Enfin, on parle de la France. Hein. Et qu'est-ce qui est en train de changer? Est-ce que le mouvement est en train de s'inverser ou c'est quelque chose de plus subtil qu'on est en train d'observer?
Alors, les mouvements ici sont toujours à plusieurs faces, en fonction justement du regard qu'on va porter. Ce qu'on appelle le mouvement de pacification du maintien de l'ordre sur une relativement courte durée, c'est ce qui suit 68. Ou plus exactement, ce qui suit les guerres de libération coloniale. Puisqu'on a un maintien de l'ordre qui tue au début des années 60, un maintien de l'ordre extrêmement violent, y compris dans les grèves ouvrières, etc. Et après 68, dans les décennies qui suivent, on a encore une violence élevée, mais globalement, on va mettre en place un certain nombre de cadres, de règles, qui permettent justement d'apaiser quelque part et de trouver en tout cas des manières de gérer le conflit social d'une manière qui n'est plus meurtrière. Il n'y a pas de mort directe en maintien de l'ordre entre Malik Houssekine 1986 et Rémi Fraisse 2014. Donc, en tout cas, de mort directe. Il y a des blessés, il y a des violences, etc. Donc, c'est ça, cette pacification. Alors, c'est un peu trompeur toujours de s'en tenir à ce versant-là. Comme le disait David Dufresne tout à l'heure, dans la même séquence, il y a les émeutes de 2005, il y a la répression des violences urbaines, il y a des choses qui ne sont tout simplement, qui sont moins portées politiquement, qui sont moins visibles, qui sont pas forcément envisagées de la même manière comme du maintien de l'ordre, mais qui relèvent, là aussi, incontestablement, hein, d'une gestion, d'un usage de la force dans la gestion des foules.
Arnaud Hout, historien, et David Dufresne, journaliste, documentariste. Vous restez avec nous, on poursuit cette discussion dans quelques minutes après le journal.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
La suite des matins d'été, oui, et de cette discussion avec nos invités ce matin sur l'état du lien de confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens. Nous sommes en compagnie de David Dufresne, journaliste, écrivain et documentariste, auteur de « Maintien de l'ordre » réédité chez Fayard, et d'Arnaud Hout, maître de conférence en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire de la police et des questions de sécurité. Vous êtes l'auteur, Arnaud Hout, de l'ouvrage « Les gendarmeries dans le monde, de la Révolution française à nos jours » paru aux presses de l'Université Paris-Sorbonne. Alors, on questionne ensemble ce lien de confiance qui semble distendu entre forces de l'ordre et citoyens. Évidemment, hier, l'affaire Steve Maya Canisso nous a donné un point de départ pour cette discussion. Mais dans le temps long, on voit bien, et vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, Arnaud Hout, que ce lien était soumis à fluctuation au fil du temps, évidemment. Vous avez rappelé qu'en 2015, à l'époque de la vague d'attentats que la France a connue, il y avait un amour presque qui était déclaré à travers la presse, dans la rue, dans les chansons, pour les forces de l'ordre. Aujourd'hui, on semble extrêmement loin de ce moment-là. C'était pourtant il y a 4 ans, ça va très vite, hein, cette fluctuation.
C'est assez exceptionnel dans la rapidité et dans l'intensité justement de la fluctuation. Effectivement, 2015, c'est Renault qui chante « J'ai embrassé un flic ». C'est les records battus pour le nombre de candidats au concours de police. Enfin, il y a vraiment une sorte de moment justement où la France semble se réconcilier avec sa police. Alors, il se trouve que je fais cours depuis plusieurs années sur l'histoire des polices sur la longue durée. Et donc, j'avais une conclusion qui était formidable pour expliquer que désormais, le 21e siècle, c'était une France réconciliée avec sa police.
Vous êtes planté.
Ce cours a duré une séance, hein, puisqu'effectivement, il a fallu tout de suite le corriger pour rappeler que, selon la formule désormais consacrée dans les manifestations, entre guillemets, tout le monde déteste la police. Et donc, une nouvelle fluctuation, une nouvelle inversion. Alors, en même temps, la question qui se pose, c'est est-ce que on a une inversion de tendance ou est-ce que ce sont des groupes différents? Parce qu'en fait, le Renault qui chante « J'ai embrassé un flic », on peut se dire aussi que c'est l'ancien baby-boomer, l'ancien 68-art, mais désormais retraité, installé, etc. Et justement, en 2015, il n'est pas sûr que tout le monde avait embrassé un flic.
Bien sûr.
Il y a toute une part de la société qui était sans doute restée en marge de ce retour d'affection pour la police. De même qu'aujourd'hui, en sens inverse, il y a toute une part de la société qui s'intéresse pas beaucoup à ce débat sur les violences policières et qui accorde une confiance très large en maintien de l'ordre, ouais, à la police. Je dis bien en maintien de l'ordre parce qu'après, il y a un autre versant à prendre en compte, c'est la confiance envers la police en tant qu'elle serait une institution efficace pour la lutte contre les cambriolages, pour la sécurité routière. Et là, là les sondages indiquent qu'il y a plutôt une baisse de confiance.
Il y a une défiance, mais c'est lié quand même, non?
C'est peut-être lié, mais il n'est pas absolument certain que, encore une fois, ce soient les mêmes critères qui soient utilisés par les mêmes personnes pour juger de l'action de la police. En fait, la question, c'est quand on demande aux gens « qu'est-ce que vous pensez de la police ?», c'est beaucoup trop large. Parce que la police, c'est énormément de choses. Et les gens vont réagir en fonction justement de quelques critères qu'ils ont en tête, mais qui ne seront pas les mêmes justement selon leur domicile, selon leur âge, selon leur milieu social.
Ouais. Vous avez cité ce slogan là qu'on entendait effectivement dans les manifestations des Gilets jaunes. Tout le monde déteste la police, mais c'est allé beaucoup plus loin. Et c'est allé peut-être de manière assez inédite, très très loin, quand on entendait ces appels au suicide. Suicidez-vous dans certaines manifestations. Arnaud Hout, comment vous expliquez cette haine, là, on arrive à la haine.
Il y a une part de folklore carnavalesque. Je vais choquer en disant ça, mais il y a une part de folklore qu'on retrouve exactement de la même manière dans le Charlie Hebdo des années 70, dans le Charlie Hebdo des années 90 aussi. Des messages d'appel à la violence contre la police, il y en a énormément sous le crayon de Charb à la fin des années 90. Il y a vraiment quelque chose qu'on a oublié, je pense, de ce point de vue-là, qui est justement la radicalité des rapports sociaux, notamment dans les années 70, où il y avait des discours de haine absolue. Il faut réécouter, par exemple, le sketch de Coluche, le flic de 75, qui est un sketch assez connu, où Coluche explique qu'un policier va avoir 10 blâmes pour avoir un avertissement, et c'est seulement au 10e avertissement qu'il aura une sanction. Ce sketch-là, quand on le réécoute, il est d'une violence qui est assez sidérante quand on mesure aujourd'hui le personnage qui nous paraît consensuel, qu'est Coluche. Donc, je pense que là, il ne faut pas se tromper, c'est pas inédit. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est une forme de radicalité, mais qui existe sur la très longue durée dans le rapport des Français à leur police.
Et on l'entend, c'est ce que vous nous disiez aussi tout à l'heure, peut-être un peu différemment aujourd'hui. David Dufresne, sur ce point-là.
Oui, je crois beaucoup à la théorie là que vous venez de développer. Ce sont pas les mêmes groupes. Voilà, ce sont pas forcément les mêmes personnes qui embrassent en 2015 pour des raisons tout à fait compréhensibles et évidentes, et puis ceux qui aujourd'hui, parce qu'ils font face à la police, parce qu'ils subissent des charges, parce que depuis 50 ans on n'a jamais vu un maintien de l'ordre qui soit autant répressif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le nombre de tirs de grenades lacrymogènes, de LBD, de désencerclantes, d'armes de guerre. Hein, la Glie F4 et le LBD sont des armes de guerre considérées comme telles par les instances internationales. C'est un détail, mais le jour du suicidez-vous, qui est assez dégueulasse, vous voyez, je partage pas du tout ça. Il faut.
C'est pas que du folklore. Non. Parce qu'Arnaud nous disait, c'est du folklore.
Non,
mais il y avait quand même quelque chose de l'ordre.
C'est aussi la suite, parce que moi, j'ai bien étudié cette manifestation. Elle part de Bercy. Et les mêmes gens qui, à République, à la fin de la manifestation, quand ils sont chargés massivement au mois de mars, les mêmes gens, au départ de la manifestation à Bercy, disait « ne vous suicidez pas, rejoignez-nous ». C'est ça aussi la doctrine, c'est ça aussi la confiance. La police, ça se fait à deux, c'est les policiers et les citoyens, c'est les policiers et les manifestants. Et donc, c'est le béaba des écoles de police, c'est-à-dire que manifestation, répression, provocation, tout ça est un mélange. Donc ça, oui, on peut parler de folklore, si vous voulez, mais le « suicidez-vous », il n'arrive pas par hasard. Voilà, il n'arrive pas tout à fait par hasard. Et il faut pas se tromper. Il y a effectivement aujourd'hui une critique qui commence à se faire entendre sur les forces de l'ordre. Je crois que aujourd'hui le terme violence policière n'a plus besoin d'être expliqué à toute la population. La population a compris que ça existait. Elle voulait ou elle l'ignorait pendant 30 ans. Aujourd'hui, elle sait ce que c'est. N'en demeure pas moins qu'aux élections européennes, les deux partis qui sont en tête sont les deux partis qui représentent le plus l'ordre. Le Rassemblement National et En Marche, c'est-à-dire les deux partis qui sont les plus grands défenseurs, les plus grands partisans d'un ordre extrêmement rigide, parce que c'est de ça dont on parle. Alors, il faut prendre un peu de hauteur et aller un peu en Europe pour voir ce qui se passe. Vous avez un livre passionnant sur cette question-là de Sébastien Rocher, de la police en démocratie, sur la question de la confiance des pays européens avec leur police. Ça a été rappelé par à l'instant, selon certains secteurs de police, la confiance n'est pas la même. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple en Scandinavie, où la confiance de la population envers sa police est la plus grande, c'est aussi là que la formation est la plus grande. 3 ans de formation avant qu'un policier aille dans la rue. En France, c'est 1 an. Le LBD, quand vous êtes habilité LBD, le recyclage, la formation continue, c'est 4 heures tous les 3 ans. C'est-à-dire que c'est ridicule. Même les syndicats les plus durs reconnaissent que c'est ridicule. Il y a un lien très fort entre doctrine, formation et confiance du peuple envers sa police.
Quand la France se targue d'avoir une doctrine de maintien de l'ordre en pointe, et notamment en comparaison par rapport à d'autres pays, David Dufresne, vous réagissez comment
alors,
à ça? Parce qu'elle est datée peut-être un peu, cette doctrine.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que jusque dans les années 2000, la France se vendait et se vantait comme vraiment une dans un pays la meilleure police démocratique de maintien de l'ordre, etc. Et effectivement, à part Malik Kousikine en 86, la France était capable de faire face, quitte un pays de contestation. Je veux dire, voilà, le 14 juillet, on fête une manifestation non déclarée. Enfin, c'est quand même ça, la France. Effectivement. Mais c'est une légende. C'est un mythe, quand même, sur lequel a vécu la police. Et c'est ce qui l'a empêché, selon certains chercheurs, comme Fabien Jobard, Olivier Filleul et d'autres, c'est ce qui a empêché la police française de se moderniser à l'instar de la police anglaise, allemande, etc. En se disant, nous, de toute façon, nous sommes les meilleurs. Et on y arrivera coûte que coûte. Aujourd'hui, je crois que le moment dans lequel on est un désaveu total de ceci. Et j'en veux pour preuve que Christophe Castaner lui-même, du bout des lèvres, le reconnaît en créant une commission un peu, là aussi, prétexte, en disant il faut quand même qu'on réfléchisse au maintien de l'ordre. Et ils savent très bien vers où il faut aller. C'est-à-dire il faut aller vers les exemples anglais, allemands, etc., de démocratisation, parce que c'est de confiance dont il s'agit.
Arnaud Hout, problème d'évolution dans la police française ou les forces de l'ordre en général, problème de modernisation à cause d'un mythe qu'on entretiendrait ?
Oui, je pense que là, effectivement, comme le disait David Dufresne, il y a des travaux sociologiques qui sont très éclairants. Moi, j'ajouterais un élément. C'est vrai qu'il y a une question sur la formation, sur la durée de formation qui pourrait être améliorée, c'est évident. Mais là, il faut voir d'où on part. On a quand même un changement sociologique majeur dont on prend peut-être pas assez la mesure, d'ailleurs, entre le policier des années 70-80 et le policier d'aujourd'hui, en 30 ans. Ce changement, c'est l'élévation du niveau de diplôme, qui est absolument spectaculaire. Aujourd'hui, qui rentre comme gardien de la paix, ce sont des gens qui sont diplômés du supérieur, massivement. Ce sont des gens qui, peut-être d'ailleurs, n'ont pas eu les emplois qu'ils espéraient avoir, qui souvent sont candidats officiers de police et qui se retrouvent gardiens de la paix. Mais c'est quand même des gens qui ont une compétence qui ont un niveau scolaire, en tout cas, qui est tout à fait différent de celui qui pouvait être celui du policier moyen d'il y a 30 ans. Il faut ajouter à ça la féminisation. Elle est limitée, hein, dans la police. On est à peu près, on doit être à une femme sur quatre à peu près maintenant en recrutement police. C'est pas énorme, mais ça produit quand même des changements dont les conséquences sont peut-être pas négligeables non plus.
Alors, quelles sont-elles, ces conséquences ?
Alors, une des questions qui peut être posée, notamment sur la hausse du niveau de qualification, du côté positif, on va dire, c'est une police qu'il sera plus facile de former, y compris de former sur le plan de la formation continue, qui peut être sensibilisée également de manière plus variable à différents types de procédures. Ça, c'est un élément positif. Un élément peut-être négatif, c'est vrai, il ne faut pas le sous-estimer, c'est que c'est une police qui est encore moins sans doute représentative des classes populaires. Puisque c'est vrai que la police des années 70-80, c'est une police issue pour l'essentiel du monde ouvrier ou paysan, qui n'est pas forcément très différente justement du manifestant qui va être en face. Ouais. Aujourd'hui, à l'inverse, la grande question qui se pose, c'est celle de la représentativité sociale, socio-ethnique également, culturelle, qui là, effectivement, peut être envisagée comme un problème.
Il vaudrait mieux qu'elle soit un miroir de la société, cette police, Arnaud Hout, ou...
Alors, je suis très sceptique sur la possibilité d'avoir une construction en miroir. La police a toujours été spécifique. Après, je pense que comme pour toute institution, et la question ne se pose pas que pour l'ENA, finalement, la question de la diversité des modes de recrutement, elle est importante.
David Dufresne.
J'ajouterais que si on veut que la confiance soit établie ou rétablie, la justice doit passer. Et là, ça rejoint le début de l'émission, c'est-à-dire les GPN, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire le regard sur le travail policier. Il doit être exemplaire. Je rappellerai juste une chose, Rodney King, début des années 80, Los Angeles, les émeutes naissent quand les policiers blancs qui ont tabassé à mort un automobiliste sont innocentés. C'est le besoin de justice qui provoque les manifestations, les émeutes monstrueuse de Los Angeles. C'est de ça dont on parle. La justice doit passer. La République doit être républicaine. La police, dont on nous dit qu'elle est républicaine, elle doit l'être. Et quand elle ne l'est pas, elle doit être sanctionnée.
Merci beaucoup, David Dufresne, auteur de Maintien de l'ordre chez Fayard et futur auteur d'un livre qui va paraître chez Grasset début octobre, Dernière sommation. Merci à vous d'être venu ce matin. Merci aussi à Arnaud Hout, auteur de l'ouvrage Les gendarmeries dans le monde, de la Révolution française à nos jours, paru aux presses de l'Université Paris-Sorbonne.